gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Après Bamboo Station, c'est la causerie qui commence à 22h, comme tous les dimanches sur Radio Canu, enfin tous les dimanches ou presque. Bah oui, parce qu'on va pas non plus la péter, dire qu'on est là tout le temps, tout le temps. Donc ce soir, nous avons dans les studios Clara à la technique.
Bonsoir.
Jonathan.
Bonsoir.
Jean-Yves.
Bonsoir, et Fab qui a fait l'entrée.
Oui, et je ferai le plat et le dessert peut-être plus tard. Et donc, oui. Et donc sinon, pour nous joindre, c'est lacauseriecanu@gmail.com, tout attaché à lacauseriecanu@gmail.com. Et sinon, bah, vous pouvez nous retrouver et retrouver toutes les émissions depuis le début sur le blog à blogs.radiocanu.org/lacauserie, ou alors tu tapes radiocanu.org et tu cherches les blogs des émissions et on est dedans. Voilà, la causerie. Et puis bah, sinon, on a un espace sur un réseau commercialo-social, voilà, qui s'appelle Facebook, et qui permet de juste récupérer les émissions, parce qu'on répond rarement via ce biais-là. Voilà, et ben on va commencer ce soir c'est une soirée un peu... on vous parle de livres et d'actualités. Alors, on commence avec une première série de livres avec toi, Jonathan.
Et tout à fait, Fab. Je vais vous parler du vrai sexe, de la vraie vie.
Ah ouais, voilà. Carrément.
Ah ouais. J'ai décidé de, à un moment donné, qu'il était important d'en parler, et je ne suis pas la seule. Une certaine dénommée Si Point, donc C-Y Point, a décidé d'écrire une bande dessinée donc, qui porte ce titre. Le vrai sexe de la vraie vie. Alors, je vais vous faire un petit point sur la BDiste. Hein. Si c'est une jeune fille, la vingtaine probablement. Je n'ai pas sa date de naissance exacte, mais c'est une jeune auteure. C'est sa première bande dessinée, Le vrai sexe de la vraie vie. Première bande dessinée papier, puisqu'elle est aussi présente sur YouTube. Donc avec une chaîne YouTube qui s'appelle Yesi. Une chaîne qui allait bien, entre guillemets, c'est le titre.
Une chaîne qui allait bien.
Voilà. Et sur cette chaîne, on trouve quoi ? On trouve déjà de la méthodologie de dessin de bande dessinée, comment construire sa bande dessinée, quels sont ses thèmes et comment elle les a exploités. Mais on va trouver aussi des petites chroniques qui s'appellent Bribes, qui vont parler un petit peu aussi de bande dessinée, de point de vue sur les choses, notamment point de vue sur la propriété intellectuelle d'un dessin, sur comment l'utiliser, pourquoi un auteur n'est pas toujours d'accord pour que ses œuvres soient reprises, réutilisées dans d'autres contextes. Elle va aussi faire du décortiquage de publicité, la chronique Pub à clic, alors à chaque fois, elle n'a pas la prétention d'amener une science exacte, hein. Elle dit ce qu'elle pense. C'est de la chronique un petit peu comme les causeries qu'on fait, sauf qu'elle est toute seule.
Oui, c'est ça, c'est des points de vue en fait, quoi.
Exactement. Donc, ses productions sont assez riches, et puis elle a également donc, un espace hein, sur Twitter et également sur Vinsmonk. Notamment sur ce dernier, vous la trouverez à... le vrai sexe de la vraie vie, puisque c'est comme ça que vous allez trouver sa page sur les réseaux sociaux. Et elle a aussi un Ticktail. Donc un Ticktail, c'est un site de mise en vente d'œuvres. Donc comme une galerie, mais numérique.
C'est une galerie virtuelle, comme on dit.
Voilà. Et ce sera donc les dessins de scie, tout attaché en minuscules, dessins au pluriel, point Ticktail, donc Ticktail, T-I-C-T-A-I-L, .com. Donc pour acheter ses œuvres, et donc un blog où vous pouvez voir ses œuvres en partie, donc cy-clone, clone.fr. Donc voilà pour la présentation du personnage. C'est une auteure de BD qui a décidé de s'orienter quand même de manière politique dans ses bandes dessinées, au sens où elle a décidé de faire du dessin pornographique. Parce que la BD dont je vais vous parler est une BD pornographique, mais sociologique. Et complètement politique. Dans le sens où, le titre, Le vrai sexe de la vraie vie, alors en comparaison avec quel faux sexe, le sexe qui se vend, le sexe pornographique, le sexe de prostitution, le sexe commercial, le sexe en fait qui est le sexe cinématographique, le sexe qui n'est pas vraiment du sexe, qui ne relève pas vraiment du rapport entre deux individus ou plus, voilà, ou tout seul, et qui est un vrai rapport charnel, intime, de la communication, de l'ordre de la communication entre les individus. Et voilà ce qu'elle essaye de faire ressortir dans cette bande dessinée. Alors, la bande dessinée, Le vrai sexe de la vraie vie, pour le moment, c'est 2 tomes, un troisième à venir. C'est aux éditions Lapin, donc c'est paru janvier 2018. Et qu'est-ce que c'est ? Ça se présente déjà sur la couverture, on voit des tas de gens qui font des touches sexuels entre eux. Donc voilà, tout un tas de positions. Et puis ces gens, ils ont l'air de prendre du plaisir. Déjà sur la couverture. Chose qui n'est pas forcément évidente dans le porno. Enfin, juste comme ça. Donc tous les personnages qu'elle représente prennent du plaisir, sont dans l'émotion, sont un petit peu rougissants pendant l'acte, ou des fois peuvent avoir des doutes suivant les situations qui vont en découler ou l'entraîner. Donc le principe, c'est une suite de témoignages. Donc dans le premier tome, on est un petit peu en vrac sur toutes les sexualités. Dans le second tome, on est un petit peu sur les sexualités dites à part, avec de très gros guillemets, attention, puisque ça va traiter par exemple de la sexualité avec un handicap, de la sexualité dans la transidentité, ce genre de choses. Dans le premier tome, on est un petit peu plus classico-classique, on va dire, sur des choses plus courantes, des problématiques plus courantes. Comme les problématiques traitées découlent de témoignages qu'on lui a donnés, c'est que des histoires vraies. Donc il y a aussi ça que j'ai beaucoup aimé, c'est finalement l'objectivité qui en découle, c'est-à-dire qu'on traite une histoire en tant que bédéiste qui ne nous concerne pas directement, on va donc rendre un regard, et là on est maître de ce regard-là. Et donc elle a un regard, j'ai trouvé, dans son dessin très doux, très bienveillant sur le sexe, qui est énormément, encore une fois, dans la communication, dans le partage, dans l'échange, et puis dans la communication aussi de ce qui peut être non dit par tabou, par peur, par... voilà. Le premier tome, juste il faut que je vous le dise, elle écrit en troisième de couverture. Je sais, c'est bizarre de dédier une BD de fesses à sa famille, mais tant pis, j'ose, à ma famille. Quelque part, moi, ça me paraît pas bizarre parce que, comment qu'est-ce qu'on fait les bébés ? Déjà, à la base, il y a plein d'autres manières, mais la plus simple, c'est quand même ça. Donc, faire une famille, puis on n'a pas inventé la famille pour rien, hein, c'est quand même le noyau de notre société. Voilà, maintenant. Dans ce bouquin, elle montre aussi que ça peut prendre d'autres formes que les conventions qu'on nous a imposées jusqu'ici, qui découlent de tout un tas d'autres conventions bien plus oppressantes, ou tout aussi oppressantes. Et pour vous citer un petit peu, pour vous situer un petit peu comment on entre en matière, par exemple, le premier tome, je spoil un petit peu pour les amateurs, mais je vais vous faire la première planche. Le premier tome, vous arrivez, vous voyez directement une espèce de grande galerie de château avec des personnages qui sont costumés comme sous Louis XVI. Et puis vous voyez des personnages qui interagissent entre eux. Donc on entend, on voit une bulle avec marqué « Pressez le pas, nous allons être en retard !» Et puis on voit ces personnages habillés, accoutrés façon Louis XVI. Et puis là, un homme qui parle à une femme, « Ciel ! Quelle promptitude !» Et puis la femme qui dit « Ne faut point se laisser abattre, cher ami, en vidant une coupe de champagne. » Voilà. Et puis, l'homme qui lui répond, « Vous avez titillé ma soif, je vais m'enquérir du même nectar. » Pendant ce temps, elle boit seule, et puis elle rencontre un autre charmant jeune homme. « Puis-je vous inviter à danser ?» lui demande-t-il. Elle lui dit « Mais bien sûr. » Et il continue à la draguer un petit peu. « Vous êtes ravissante, vos deux brioches semblent si goûteuses, m'autoriseriez-vous à y porter les lèvres ?» Elle lui répond « Faites mon ami. »
Et tout ça en français très soutenu.
Tout ça en français très soutenu. « Oh non, ce n'est pas très convenable. » Il répond « Me laisseriez-vous goûter un peu plus de votre personne, mais avec plaisir. Laissez-moi juste en avertir mon mari. » Chérie, j'ai rencontré un charmant jeune homme, je serai à l'étage. Formidable, à plus tard ma douce. Amusez-vous bien. Et là, on voit que sur les genoux de ce charmant monsieur, il y a une femme à quatre pattes qui est en train de prendre son plaisir. Je pense. En tout cas, lui, il s'amuse bien. Mais vu son sourire quand elle fait « Oui !» Quelque part, voilà, il y a peut-être. Et puis il lui demande « Vous aimez très cher ?» Et puis on arrive sur une scène où finalement on voit des corps nus commencer à avoir des ébats quand on voit les deux personnages, les deux amants passer devant, qui se dirigent dans une chambre, commencent à faire l'amour. Donc tout est explicite, hein. Vous verrez des seins, vous verrez des pubis, vous verrez des vagins, vous verrez des doigts, des pénis, tout ce qu'il faut voir. Alors qu'il l'allonge sur le lit, elle lui dit « Comme vous allez vite en besogne, mon cher. » Et là, donc, ces gros plans, on voit le plaisir des deux personnages. On voit aussi un préservatif, on voit aussi une pénétration avec un préservatif, et on voit aussi beaucoup de plaisir chez la dame qui dit « Hein !» Là-dessus, son mari la rejoint, avec sa conquête qui était à quatre pattes sur ses genoux tout à l'heure, et lui dit « Ah, chérie, eh bien, où est votre partenaire ?» Celui-ci étant caché sous sa jupe, daigne se montrer et dit « Ici !» Et donc, le mari demande « Pouvons-nous vous joindre à vous ?» Volontiers, avec plaisir. Et là, nous avons quatre personnages qui font l'amour tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et la scène qui suit est assez magnifique parce que c'est un vrai mélange de corps, d'actes sexuels, d'amour, enfin, je sais pas, la tendresse du dessin. Comment vous décrire ça? Les quatre personnages sont en train de s'embrasser, de s'enlacer au milieu d'un décor fait, oui, de vagin, langue, anus, sein, pénis, bouche. Sein, pénis, anus. Oui, tout ça très très joli. Très très joli. Et à la fin, on les voit tous les quatre en train de dormir paisiblement.
Dans un beau grand lit.
Un baldac.
Un baldac. Une sexualité parmi tant d'autres, finalement, qui est écrite vraiment sans chercher à mettre des mots plus que ce qu'ils ont besoin d'être dessus. Et en même temps, avec énormément de tendresse. Parce qu'il y a l'humour. Déjà, il y a...
Tu n'es pas allé au bout, parce que les gens ne vont pas comprendre 16e siècle préservatif, mais
exact.
Comment est-ce possible?
La chute.
La chute, la chute.
Donc, cette sexualité-là, on arrive ensuite sur une autre planche, et le monsieur Marie, qui était en Louis XVI, dit « C'était un sacré bon week-end. » Sa femme, qui était elle aussi habillée dans une tenue de l'époque, dit « Oui, l'organisation était vraiment au top. » Et il dit « Punaise, j'ai des courbatures. » Et sa femme lui répond « Bon, faut pas qu'on traîne, hein, faut récupérer les enfants chez ta mère à 18h. » Et en fait, ces deux personnes-là sont habillées très classiquement, version 2000, récupèrent leur voiture et partent d'un château qui ressemblerait à une copie de Versailles ou un truc dans le style. On comprend bien donc que c'était un week-end libertin qu'ils ont vécu. Très heureux de l'avoir vécu d'ailleurs. Et voilà, la façon dont c'est amené, donc je ne suis pas allée au bout tout de suite volontairement, parce que la façon dont c'est amené, c'est quand même magique de voir, enfin, je suis désolée, toute cette histoire, la bonne pensée, la bonne morale dira que ah, c'est pas bien les trucs à plusieurs de libertins, machin, tout ça, c'est pas propre, c'est sale.
Et d'un couple avec enfants.
Un couple avec des enfants en plus.
Et
marié.
Oh, non, mais là...
Oh, hétérosexuel. Non mais il faut qu'ils arrêtent.
S'amuser les hétéros.
Non, un truc de ouf. Et donc tout ça avec voilà énormément de tendresse, un dessin qui est très doux, vraiment très très doux, très agréable, qui est pornographique sans être vulgaire. Et donc du coup ben je recommande cette lecture parce que au-delà du travail, ah oui, une petite chose que j'ai oublié de préciser, entre les planches de bande dessinée, il y a aussi des planches de dessin qui expliquent. Allez, exemple au hasard, une des premières que vous rencontrerez, ça sera justement après cette
week-end
planche.
Libertin.
Voilà, ce week-end libertin, la protection. Donc vous aurez tout un inventaire des protections, voilà, anti MST, IST et contraception. Donc en plus d'être un petit planning familial de poche, ce livre est aussi une petite œuvre d'art parce que vraiment c'est agréable d'avoir quelque chose qui soit purement sexuel, parce que c'est du sexe, mais qui ne soit pas vulgaire, qui ne soit pas oppressant, qui ne soit pas... C'est écrit par une femme, alors peut-être que ça joue, mais c'est pas non plus masculiniste. C'est pas forcément hétéronormé. Et du coup, ça fait appel à la diversité, voilà, et la beauté du sexe. Donc... à bouquiner.
On rappelle le titre, la maison d'édition.
Tout à fait. Donc c'est Le vrai sexe de la vraie vie. C'est par CCY. Et donc la maison d'édition, c'est les éditions Lapin. Et vous pouvez le trouver un petit peu partout, dans toutes les bonnes boutiques qui vendent de la bande dessinée.
Et puis vous pouvez faire commander aux médiathèques aussi.
Aussi.
Aux bibliothèques.
Vous pouvez essayer. Ouais. Je suis pas sûr que vous y arrivez pour ce genre d'ouvrage. J'en sais rien.
Comme
franchement,
il est
je sais
de
pas.
2018, il est possible qu'il ne soit pas arrivé, mais n'hésitez pas à le recommander à votre bibliothécaire.
À le demander, bah oui. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Enfin, moi, ça me donne très envie de le lire parce que je trouve qu'il est assez rare d'avoir aujourd'hui. Que ce soit la BD ou des livres, qui ne tombent pas soit dans le pathos ou dans la morale par rapport au sexe, soit qui tombent dans l'extrême inverse, où on est dans l'ultra-vulgaire, volontaire et tout. Et je trouve ça bien d'avoir quelque chose qui parle juste de plaisir, ça change un peu, quoi, de plaisir, d'échange, tout ça. Et je trouve ça cool, parce que voilà, bah, le sexe, c'est avant tout ça, hein, au départ. Et on en parlait pendant la prépa frite. Oui, c'était devant un plateau de frites. on révèle tout. En fait, tu disais qu'il y avait Zep qui avait fait le
guide du zizi sexuel.
Ouais, et que c'est plutôt son pendant mieux fait.
C'est ça. C'est que le guide du zizi sexuel a été un petit peu primé comme étant un outil pédagogique voilà, de l'enseignement de la sexualité aux plus jeunes, enfin aux jeunes adolescents, voire aux préados. Là, je pense que ce livre-là, tout sexuel qu'il est, peut s'adresser à ce même genre de public, mais avec un regard qui est tellement moins mièvre et tellement moins alambiqué, paradoxalement, parce que c'est vrai, quand on essaye d'expliquer des choses techniques, c'est peut-être une pénétration avec un préservatif, par exemple, c'est peut-être mieux de le montrer
avec
une image douce,
avec
du plaisir de l'envie, plutôt que d'essayer de l'expliquer en disant « mets ton doigt à travers cette page et tu verras comment ça fait une bite dans un trou ».
Ouais.
Parce que c'est ça aussi, Zep. Alors c'est très drôle, c'est très éducatif, mais ça manque de réalité.
Ok. Ouais.
Eh bien, on passe... Ah oui, on passe
alors,
à la musique.
Oui, chers auditeurs, je ne serai pas là pour la suite de l'émission. Donc je vous annonce la musique que vous allez écouter tout de suite. C'est Mille d'Orange, un groupe génial qui a écrit une musique qui s'appelle Some Feeling et qui va très bien avec le vrai sexe de la vraie vie.
C'est vrai.
Musique pour baiser.
Au revoir alors.
Au revoir. Au revoir.
Non mais juste pas les auditeurs et auditrices, hein, juste toi.
Oui, juste moi, oui, juste moi.
Nous on est encore là après.
Hello again. Remember me? We were making love. But just getting started. This is all things. Yeah, I've been looking for some feeling, but you've been looking other ways. Yeah, I've been holding for some time now, and you've been going astray. Yeah, I've been holding on for way too long, trying to
Et ben voilà, vous êtes de retour, dis donc, à la causerie sur Radio Canu. Qu'est-ce qui t'arrive ?
Rien, c'est qu'on est une de moins, ça me fait bizarre.
D'accord, mais calme-toi, ça va aller.
Je suis tout apeuré.
Tout va bien se passer. Et on vient donc de s'écouter ce titre de musique pour fête pour baiser, mais pas que, que nous proposait Jonathan. C'était donc Mild Orange avec Some Feeling.
Et oui, et bah comme il faut continuer cette émission, hein, malgré tout, non, bah je plaisante. Et donc Jean-Yves, maintenant, c'est toi qui voulais nous parler d'actualité et tu voulais nous amener à Maurice, enfin la République de Maurice.
C'est exactement ça. Donc étant, alors peut-être vous êtes au courant, hein, étant la période des marches des fiertés, autrement dit aussi Gay Pride, en ce moment un peu partout à travers le monde, elle a eu lieu hier par exemple à Lyon, et bien j'avais envie de vous parler, d'apporter du soutien aux personnes en lutte contre la haine des LGBTI, qui se battent pour l'égalité des individus, quelle que soit leur sexualité, leur genre, et pour qui ça se passe moins bien que nous ici. Même si ici, ce n'est pas parfait, et on le sait suffisamment, et on le répète suffisamment ici. Hein.
Ici étant à la causerie, et
la
ici
causerie
étant
en
maintenant
en France, là où on est, en Europe. Et
vous
encore.
Avez beaucoup de ici dans ta phrase.
Oui, je sais bien, mais faites un peu marcher vos ménages, dis donc. Donc ce soir, comme tu le disais, j'ai envie de vous parler de la République de Maurice, dont tout le monde connaît évidemment au moins une île, qui est l'île Maurice, d'accord. Paradisiaque, plage, tout ça, tout ça. Mais il y a d'autres choses aussi, hein. Donc j'ai envie de vous parler de Maurice. Mais surtout de ce qui s'est passé le samedi 2 juin, à savoir donc la marche des fiertés qui a eu lieu à Port-Louis, qui est la capitale de l'île Maurice. Alors avant de vous répondre pourquoi je vous en parle, en fait j'avais envie de recontextualiser la lutte pour l'égalité des droits là-bas, et je précise aussi que j'ai pu construire ce sujet grâce aux réponses que m'ont fournies. Enfin, en tout cas, ils ont répondu aux questions que je leur posais. Le collectif Arc-en-Ciel, qui m'a fourni ses réponses par des échanges de mails après s'être contacté via des réseaux sociaux commerciaux.
Et qui est un collectif mauricien.
C'est exactement ça, je vous en parle tout de suite après. Ben oui, parce que les réseaux sociaux commerciaux, ils peuvent aussi devenir des fois sociaux, en fait, selon ce que vous en faites. Hein. Donc le collectif Arc-en-Ciel, hein, GAEC aussi. Vous l'entendrez plusieurs fois, je ne vais pas vous dire à chaque fois le collectif Arc-en-Ciel. Donc GAEC organise les marches des fiertés depuis 2005, tous les premiers samedis du mois de juin. Alors deux petits mots rapides sur le GAEC. Donc c'est la plus ancienne association LGBT mauricienne. En plus de la marche, le GAEC bosse au quotidien pour faire évoluer le cadre légal en faveur des personnes LGBTI, lutte contre la stigmatisation, la discrimination, soutient aussi les personnes LGBT, etc., etc., par différentes choses qui sont proposées et animées donc par ce collectif. De 2005 à 2015, hein, donc pendant 10 ans, la marche des fiertés, elle s'est tenue dans la ville de Rose Hill. Donc vous prenez votre petit surfeur internet et vous tapez Rosil Maurice et vous verrez où c'est. Et depuis 2016, donc depuis 3 ans, la marche des fiertés en fait a lieu à Port-Louis, comme je vous le disais, qui est la capitale de l'île Maurice. Vous verrez, c'est à 20 minutes de route, mais on a l'impression que ça change tout pour certains. En 2016, le collectif avait organisé donc le défilé sur le port, mais n'était pas sorti du port, sur la route comme ils disent, pour limiter les risques et les appréhensions de chacun. Ok. En 2017, des menaces avaient été publiées par un groupe d'extrémistes religieux contre l'événement. Pour l'occasion, en 2017, d'ailleurs, le collectif avait reçu le prince indien Mavendra Singh Gohil. Je vous invite à aller sur internet, à faire des recherches sur lui. C'est un descendant de grande famille Maharaja,
ouais.
Et qui est homo, qui s'est marié et qui, en fait, si je me souviens bien, réserve, on va dire, son palais à toutes les personnes discriminées LGBTI. Voilà, c'est ça, en Inde, oui, pardon.
Et dans le monde, d'ailleurs, comme il le dit, mais principalement.
Et donc là, donc en 2017, hein, ils étaient là les deux, donc lui et son mari, et en fait son époux. Et la sécurité était donc renforcée. Hein. Les membres du collectif et les autres avaient évidemment défilé pour la première fois devant le bureau du Premier ministre et l'hôtel du gouvernement, ce qui n'est pas rien, avant qu'un groupe d'opposants, donc ce groupe dont je vous parlais un petit peu avant, d'une trentaine de personnes, oblige à modifier le parcours de retour suite à l'envoi de plusieurs cailloux sur les participants et participantes. Vous voyez, sympathique de prendre des cailloux. À Lyon, prendre des œufs, c'est déjà pas sympathique parfois. des cailloux, c'est encore un degré différent. Donc c'était la première fois hein, que le GAEC et toutes les manifestants et les manifestantes en fait avaient face à eux une opposition virulente, violente et agressive vraiment quoi. Une enquête a donc été lancée à l'époque, donc il y a un an, et le dossier vient tout juste d'être bouclé et c'est dans les mains du directeur des poursuites publiques comme on les appelle là-bas. Donc depuis toutes ces années, vous imaginez bien que les membres du collectif avait déjà pu lire sur les réseaux sociaux des commentaires très négatifs, homophobes, en amont, mais aussi après les événements. Et bon, ça, c'est à peu près le lot, je pense, de tous ceux et celles qui organisent des marches des fiertés à travers le monde. C'est un réceptacle à haineux. Donc jusque-là, on se dit bon. Il y avait évidemment aussi certaines personnes hein, qui distribuaient des tracts contre l'homosexualité. Mais comme je vous le disais, depuis 2 ans, il y a une vraie opposition physique, violente et agressive qui prend vraiment place et enfin qui est là quoi hein, physiquement. Donc ce groupe hein, de personnes hein, bah malheureusement enfin ce groupe d'opposants bah, les marcheurs et marcheuses ont malheureusement pu les revoir cette année parce qu'en effet ces illuminés religieux, excusez-moi, je ne serais pas plus respectueux envers ces gens-là, étaient parmi les organisateurs du rassemblement d'opposants auxquels ont dû faire face donc hein, ces manifestants de la marche des fiertés. Alors évidemment ces adorateurs de Dieu, hein, comme ceux et celles de la Manif pour tous, vous vous en souvenez, on s'en souvient toujours, on ne les oublie pas et ils sont toujours pas morts, trouvent donc tous les prétextes, évidemment, pour tenter de nous faire croire que leur haine serait raisonnable, logique et peut-être même respectable.
Hein. Écrite donc, quelque part.
Hein ?
Écrite quelque part.
Ah bah bien évidemment, c'est écrit par le Tout-Puissant, t'imagines bien. Alors, je vais vous citer quand même deux des prétextes de ces haineux et je vous laisserai faire des recherches si vous avez envie de trouver leurs centaines de menaces de mort et autres tracts très bien inspirés, en tout cas par la force du Tout-Puissant. Et alors, le premier prétexte, hein, c'est qu'ils ont fait porter au GAEC une image issue d'une Pride de Londres où des anciens musulmans, on en a déjà parlé, c'est un collectif d'apostats.
Oui, oui, qui avait fait une pancarte plutôt drôle où il y avait marqué Allah is gay,
c'est
et
ça.
C'était une provoque assez amusante.
Hein, c'est ça. Et en fait, c'est ces religieux, je sais même plus comment les appeler. Ils ont dit que c'était le GAEC. Le GAEC, lui, de son côté, s'en est dissocié. Avant, pendant et après l'événement, ça a absolument rien changé à la donne. Ils étaient responsables de ça. Et ils ont aussi, hein, en deuxième prétexte, ils ont aussi insinué que le GAEC organisait la Gay Pride pendant le jeûne du Ramadan, pour provoquer. Alors que, comme je vous le disais, en fait, la marche des fiertés a toujours lieu à Maurice. Le premier samedi du mois de juin.
On va rappeler que le Ramadan, lui, se balade dans le calendrier.
Oui, c'est ça.
Ce n'est pas le cas donc de la Pride qui est toujours au même week-end.
C'est
quoi.
Exactement ça. Mais là, ça tombait bien, donc ils se sont dit, tiens, on va leur faire porter le chapeau. Donc voilà. Donc alors, on peut se dire, bon, ça va, c'est que des mots, c'est des gens dans la rue, bon, ils ont quand même balancé un peu des cailloux. Mais là, quand même, le 2 juin 2018, hein, le groupe d'opposants n'était plus de 30 personnes, mais de 400 personnes, ce qui change quand même légèrement la donne. Et la police a confirmé aux organisatrices et aux organisateurs de la marche que des armes avaient été vues et que eux, en tant que force de l'ordre, n'étaient pas en mesure de garantir la sécurité individuelle des participants et participantes. Pour les membres du collectif, il était évidemment impensable de mettre en danger les marcheurs, ce que je peux largement comprendre. Quand les flics te disent « on vous assurera pas votre sécurité parce qu'on a vu des armes », bon, il y a plusieurs manières de réagir, mais je peux comprendre aussi celle-là. Donc, parce que tous ces gens-là étaient venus de manière pacifique, pour juste manifester pour la marche des fiertés, en fait. On vient pas armé, casqué, quand on va à la Pride. Sauf certains peut-être. Donc malgré les menaces, malgré tout ça, l'événement a quand même eu lieu sous une forme différente. Il n'y a pas eu de défilé, par contre, il y a eu un rassemblement.
Ce qui pour moi est balèze, parce que ça veut dire qu'on ne cède pas de terrain, quoi. C'est-à-dire, même si on ne marche pas, on reste et on fait exister l'événement.
C'était
quoi.
Effectivement le propos de la personne avec qui j'échangeais, qui me disait, on n'a quand même pas totalement perdu. Je disais, effectivement, parce qu'on peut le voir sous différents angles.
Non, mais c'est pas simple, quand on vous dit, les gens en face sont armés, rester quand même et maintenir c'est pas si simple dans la tête des gens, c'est pas si facile quoi.
Bah, justement, ce qu'elle me disait, enfin cette personne, c'est qu'elle me disait en même temps, ça a démontré un message de solidarité et d'amour face à des haineux, ce qui finalement est très fort aussi en message quoi. Donc on peut se dire, là tout est posé, hein, et depuis donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben depuis, ça a révolté quand même pas mal de personnes sur Maurice, sur l'île Maurice, mais peut-être que ça dépasse un peu les autres îles. Et un élan de solidarité assez général a été observé des propos qu'on m'a rapportés des gens qui sont là-bas. De nombreux habitants et habitantes qui n'étaient pas présents ce samedi-là pour la marche des fiertés, mais ayant vu les journaux, les images des événements, ont immédiatement apporté leur soutien, ce qui est toujours très agréable. Les personnes présentes, bah, elles étaient forcément déçues de ce qui se passait, mais qu'en même temps, il y a une forme de solidarité, etc., qui fait que bon, même dans les moments durs, on se soutient et ça passe mieux plutôt que d'être tout seul dans ton coin à dire merde, on nous a encore une fois censuré. Donc voilà, donc là, ça, effectivement, on peut se dire que c'est plutôt bien dans le sens où malgré cette chose-là, ça a quand même réveillé des gens et même des gens qui ne se sentaient pas forcément concernés par les questions, ou en tout cas les notions d'égalité de droit pour les LGBTI, et qui se sont positionnés depuis, ce qui finalement est quand même vachement intéressant, même si c'est toujours dommage de devoir attendre des événements plus ou moins violents pour que les gens réagissent, mais bon.
C'est sûr, mais on peut aussi mettre ça au crédit de la réaction des gens qui n'ont pas bougé.
Oui.
C'est-à-dire que le fait justement le fait de maintenir quand même, c'est toujours très important, parce que vous montrez que votre cause, non seulement vous y croyez, mais en plus vous êtes prêt à la défendre, et du coup, les gens, enfin, même les gens pas concernés ou qui jusque-là se posaient pas de questions, se disent c'est pas très logique ce qui se passe, vous voyez. Et vraiment, chapeau quoi.
Mais ce que me disait aussi encore une fois la personne de l'asso du collectif, Arc-en-Ciel, c'est que en même temps, il y a aussi un projecteur qui a été foutu sur Maurice pendant deux semaines, et que ça, c'est quand même quelque chose aussi qui peut être positif, parce que justement, d'un coup, on n'est plus juste dans une petite histoire locale sur notre île. D'un coup, il y a à peu près tout le reste du monde qui est au courant, ou en tout cas qui peut être amené à être au courant, quoi. Donc depuis, quand même, il y a différentes initiatives qui ont été prises. Il y a une marche pour la liberté qui est prévue dans quelques semaines, pour que les gens qui ne se sont pas reconnus là-dedans, parce qu'encore une fois, ces fous furieux islamistes salafistes, c'est pas la majorité des musulmans, il faut encore une fois le dire, peut-être, je ne sais pas, mais si vous avez la bêtise de penser que ces salafistes sont représentants de tout musulman ou toute musulmane, je crois que déjà vous vous trompez beaucoup et que vous faites un gros ensemble qui pue. Donc là, c'est l'idée que tous ceux qui ne se sont pas reconnus dans ces agissements haineux, se réunissent pour démontrer que on peut faire autre chose à Maurice, et que la solidarité, etc., etc., ça fonctionne aussi, et parce que c'est aussi signifier, ou en tout cas interroger, l'absence de réaction du gouvernement.
Oui.
Parce qu'il n'y en a pas eu, pas vraiment, pas de franche, pas de position claire. Donc il y a encore d'autres actions, il y a des actions de sensibilisation qui sont prévues. Les membres du GAEC qui ont reçu des menaces de mort vraiment des bien lourdes continuent leur démarche avec leurs avocats, etc. Il y a une pétition aussi au niveau national et international qui a été lancée par les membres du GAEC.
Qu'on mettra en ligne.
On vous mettra le lien en ligne, c'est sur Go All Out. Celles qui connaissent un peu certains trucs LGBT, All Out, c'est assez connu. C'est une plateforme
de pétition.
Ça ne changera pas la face du monde, mais vous pouvez toujours y ajouter votre nom. Ça fera toujours des milliers de gens, ou
ça
des millions de gens,
non, mais ça
qui auront signé, effectivement.
Il ne faut pas oublier que la République de Maurice vit en partie du tourisme, et que donc du coup la pression extérieure peut aussi avoir un poids important.
C'est exactement ça, parce que justement ce que disent les membres du GAEC, c'est qu'en fait eux ils estiment en fait que l'île Maurice ne peut plus se reposer sur une image paradisiaque d'île paradisiaque tant que les droits humains de certaines minorités ne seront pas respectés. En fait, ça me rappelle certains autres pays en fait, ou certains autres sur lesquels on peut très vite taper. Par contre d'autres, là où il y a des plages de sable fin, c'est pas grave. Donc on peut aussi, je veux juste vite faire rapidement quand même parler justement des différentes positions des gouvernements et des gouvernements de Maurice, hein, qui se succèdent et qui finalement opèrent de la même façon depuis 13 ans. Alors depuis 2015, ce qu'on m'a rapporté, c'est depuis 2015, il y a un certain intérêt pour ces causes-là, Par contre, il n'y a aucune action politique concrète qui a été menée, réalisée et enfin qui soit aboutie, quoi.
C'est une tape dans le dos, comme on dit.
C'est un petit peu ça. On comprend votre lutte. Merci. À bientôt. Le collectif Lui Arc-en-Ciel prend de plus en plus de place et est de plus en plus visible à travers des campagnes de sensibilisation aussi, des actions de plaidoyer, ils appellent ça. Alors, j'ai pas envie d'appeler non plus ça lobbying, mais c'est de faire entendre.
Si, c'est une forme de lobbying. Le lobbying, ça veut dire porter sa cause auprès des politiques.
Ouais, mais donc, c'est ça. Mais voilà. Ça peut être des fois peut-être plus. On a peut-être plus une image négative du lobbying que du plaidoyer, peut-être.
Ouais.
Donc voilà, et c'est ce que disent les membres du GEC, c'est qu'ils ont souvent affaire à des politiciens qui comprennent. Hein.
Je vous comprends, merci.
La nécessité de faire évoluer le cadre légal pour les LGBTI. Mais qui légifère pas vraiment parce que la société mauricienne n'est pas prête pour cela.
Oh là là, mais là-bas aussi.
Ça vous rappelle pas des trucs qu'on a déjà toutes et tous entendus, quel que soit le pays dans lequel on vit, franchement.
Mais de toute façon, tout progrès social, vous avez l'excuse, c'est toujours la société est pas prête.
C'est exactement ça.
C'est un truc de dingue, hein, mais quelle que soit la question, quoi. Donc.
C'est ça, toujours les mêmes raisons, les mêmes excuses des politiciens, et ça, c'est très universel, quel que soit le pays où l'on vit. Et de Maurice à la France, le courage politique s'arrête évidemment là où la logique électorale l'emporte, et c'est souvent forcément au détriment de pas mal de monde. Et aussi, juste vite fait, et après je termine, promis, j'ai une petite pensée quand même pour les médias communautaires en France qui avancent à tâtons sur ce sujet, voire se taisent, parce que je ne sais pas pourquoi. Les mêmes qui peuvent en faire des tonnes sur des sketchs qu'ils trouvent offensants, alors que bon, bah, moi en tant qu'LGBTI, bah, je ne suis pas vraiment offensé. Bah, là, se taisent aussi. Les mêmes qui peuvent dénoncer à juste titre, et c'est très bien, hein, le refus de la préfecture lyonnaise, par exemple, de laisser la marche des fiertés passer par le Vieux-Lyon. Bah là, c'était aussi. Donc, comme si des cailloux jetés, la présence d'armes, des centaines de menaces de mort étaient peut-être normales à Maurice. Je sais pas. Est-ce que c'est encore une fois du différentialisme qui est tellement en vague en ce moment dans certains milieux? Je sais pas. En tout cas, interrogez-vous quand même, parce que si ça se passait à côté de chez nous, je pense qu'on crierait tous, en fait. Mais là, vu que c'est loin, c'est ailleurs. Puis tu sais, c'est culturel sûrement. Ouais, arrêtez avec votre différentialisme qui pue le racisme. Bref, solidarité internationale, que crève l'ordre moral. L'ordre moral, je ne sais pas si on peut dire ça comme
ça.
Et donc voilà, on mettra tous les liens vers le GAEC, leur site, etc. sur la page de la causerie pour que vous puissiez rester informés, les contacter, apporter votre soutien à ces personnes qui militent. Voilà.
Bah, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que je te rejoins sur les médias communautaires, mais bon, je suis pas trop surpris non plus, parce que quand on est capable de mettre des pages de pub pour l'Indonésie, ce qui se passe à Maurice ne doit pas vraiment les intéresser non plus. Ça, c'était une petite tacle au passage. Et la deuxième chose, c'est que juste je voulais dire que le chef de ces belliqueux extrémistes s'appelle MeToo.
Oui,
et moi, je trouve ça assez drôle que le gars s'appelle comme le mouvement de MeToo.
Je sais pas si c'est drôle, mais c'est drôle.
C'est paradoxalement drôle, c'est-à-dire que c'est parti de l'humour noir. Et moi, je me suis dit, mais c'est terrible, ce gars porte un nom, mais à l'inverse total de ce qu'il prône. Mais voilà.
C'est ça.
Mais au moins, ça permettra de nommer ce gars.
Oui, c'est ça, le meneur. Après, évidemment, voilà. Les 399 autres, je vous laisserai les trouver. Après ça, on va passer à de la musique. vous êtes toujours à l'écoute de la causerie sur Radio Canu au 102.2 de la région lyonnaise ou alors sur radiocanu.org. Et là, on vient de s'écouter un titre d'un groupe mort-né qui s'appelle A Single Spark From Nowhere. Et le titre, c'était The Mist, Yellow Spices. Même si le groupe n'existe plus, je vous invite vraiment à écouter le reste. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, et puis bah, pour terminé, bah Fab va nous reparler d'un autre livre, enfin va nous parler d'un livre.
Bah oui, bah je vais pas reparler, c'est pas moi qui parle de
toi. Et bah donc vas-y, à toi.
Alors moi je vais vous parler d'un livre qui s'appelle L'assignation, les Noirs n'existent pas. Alors le titre est un peu provocateur, mais on va y revenir. Alors l'auteur c'est Tania de Montaigne, qui est née le 24 décembre 1971. Elle est journaliste, écrivaine et essayiste. Elle a fréquenté les bancs de l'école des hautes études internationales et politiques. Elle s'est lancée en 1995 dans une carrière d'animatrice télé, en commençant par Canal J, puis Canal Plus. Pour ceux qui se rappellent des années Canal, elle était une des figures de ces années-là. Elle n'a pas pour autant abandonné l'écriture, elle a toujours écrit. Elle est l'auteur de plusieurs livres autour de la sexualité, du racisme et de la vie, que ce soit sous forme d'essais ou de romans. Elle signe par exemple Les caractères sexuels secondaires, Toutes les familles ont un secret, Le quart d'heure islandais, qui est sur le festival de Cannes et ses coulisses. Il paraît que c'est très très bien, j'en ai lu quelques pages, moi ça m'a fait beaucoup rire. Noir, la vie méconnue de Claudette Clauvin, et Unisexe, à propos de l'intersexualité et au-delà. Voilà, donc on peut dire qu'elle n'a pas pris pour habitude de s'attaquer à des sujets simples et faciles, c'est pas vraiment son genre. Elle donne aussi des cours à l'Institut d'études politiques de Paris, dans le cadre d'un atelier d'écriture. Enfin, d'atelier d'écriture, pardon. Et puis, comme ça suffisait pas, elle chante aussi ses propres chansons qu'elle écrit. Voilà, et que des amis musiciens mettent en musique. C'est entre le jazz, la soul et le folk. Hein, voilà, donc c'est un peu tout ce qu'elle aime. Donc, voilà pour l'auteur. J'oubliais, pardon, elle est noire. C'est peut-être un détail parmi tant d'autres, pour elle comme pour moi, mais ça semble central pour plein de personnes. Et ça tombe bien, parce que le livre, c'est ce dont il va nous parler. Alors le livre, tout commence un jour de 2016, quand une journaliste appelle l'auteur pour lui demander ce qu'elle pense du fait que Katy Perry se soit faite des tresses africaines dans son clip. Et là, c'est le déclic pour Tania de Montaigne. Si on l'appelle, elle, pour parler de ça, c'est parce qu'elle est noire. Et rien que pour cela. Non pas qu'elle aurait une analyse politique liée à ses connaissances acquises, je vous rappelle son parcours juste avant, ou en lien avec son cursus journalistique. Non, on l'appelle parce qu'elle est noire. Noire avec un N majuscule. Et c'est cette majuscule qui entraîne les grands ensembles. Parce que oui, dans le titre, les noirs n'existent pas, le noir porte un N majuscule. Clairement, le livre est un hymne à l'universel. Alors, on va être très clair, pas un universalisme du XVIIIe siècle avec sa base catholique et européenne du tout, mais un universalisme moderne où chacun est un individu dans des groupes, où chacun est influenceur des groupes et influencé par les groupes qu'il fréquente, que ce soit des groupes politiques, professionnels, amicaux, amoureux, et c'est-à-dire où les gens ont des multiples facettes et pas une seule et unique. Voilà. Elle va donc passer en 93 pages son temps à interroger les choses qui semblent soit anodines à certains, soit lentes soi à d'autres. Soit tout simplement des choses sur lesquelles on ne se penche pas suffisamment. Sa première interrogation est toute bête. Quand est-elle devenue noire avec un N majuscule ? S'ensuit un retour en arrière sur son enfance, l'école, la vie, les regards des gens, la malveillance, mais aussi la bienveillance maladroite. Ça, elle a des chapitres sur la bienveillance maladroite que j'ai trouvé géniaux. Ensuite, elle va interroger la notion de réponse au racisme. Si les racistes adorent les grands ensembles, juifs, musulmans, noirs, jaunes, blancs, merci de mettre des majuscules à chacun de ces mots, s'il vous plaît. C'est par volonté claire de tracer des lignes fictives entre les humains, de garder une pseudo-pureté malsaine ou une domination fantasmée ou réelle selon les moments de l'histoire. Mais du coup, l'auteur nous amène à nous interroger si une réponse, par grand ensemble de même type, mais qui serait progressiste, est une idée qui peut fonctionner. Assez rapidement, elle démontre que non seulement non, mais en prime, cela extrémise celles et ceux qui partaient de l'idée de combattre le racisme vers une forme de rejet de l'autre tout aussi malsain que les premiers. D'ailleurs, il y a un excellent passage que je vous conseille qui est « C'est quoi la musique noire avec un N majuscule ?» C'est juste savoureux. Et voilà, je vous invite vraiment à le lire, c'est fabuleux. Qu'est-ce que c'est que la musique noire ? Voilà. D'ailleurs, un exemple aussi qu'elle cite dans le livre et qui fait un peu le lien avec le départ et les fameuses tresses de Katy Perry, c'est le concept assez fourre-tout de réappropriation culturelle. Tania de Montaigne va l'interroger, le disséquer un peu pour tenter de le comprendre. Comprendre pourquoi dans une université chic des USA, on ne sert plus de sushi, mais du poisson sur du riz. Par exemple. Elle va aussi démontrer que le monde est depuis toujours un mélange et un lieu de partage, même sous des formes dramatiques, mais qu'il ne faut pas nous enfermer dans l'histoire. Tout comme les réalisatrices et réalisateurs des routes de l'esclavage, présentées par Jean-Yves dans la causerie 253.
Merci pour cette promo.
Elle appelle à ce que nous nous emparions de l'histoire, toutes et tous ensemble, car le passé ne doit pas entraver les transformations de l'avenir et du présent. Comme elle le répète souvent, l'histoire appartient à tout le monde. Elle n'est pas le propre de quelques personnes. D'ailleurs, une des choses que j'ai particulièrement appréciée dans le livre, c'est sa capacité, à l'auteur, à ne pas passer à côté de dimensions qui pourraient déranger dans son argumentaire. Elle ne nie à aucun moment le racisme. Je rappelle qu'elle a déjà même écrit des livres sur le racisme, et je vous invite à lire ce qu'elle avait tweeté à l'époque à Anne Roumanoff, quand elle avait imité la ministre à l'époque, Christiane Taubira, en la singeant, mais le mot est même pas faible, comme une Guadeloupéenne de base. Voilà. Alors que Christiane Taubira est un petit peu guyanaise et qu'on ne ressemble pas à un singe jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, et donc du coup, c'est assez intéressant de voir que ce n'est pas la première fois qu'elle se pose sur ces problématiques-là. D'ailleurs, elle rappelle même les rouages en donnant des exemples précis de ce racisme et de comment il fonctionne en fait. Elle ne nie pas les notions de préjugés et d'envie de bien faire et parfois de bien dire. Mais comme elle le dit, parfois le mieux est vraiment l'ennemi du bien. Voilà. Elle démontre comment la question du, par exemple, tu viens d'où, posée à des personnes dites de couleur, je mets les guillemets comme elle, est devenue plus subtile dans ce monde de langage policé en devenant, mais tu as des origines, je peux connaître lesquelles? Voilà. Renvoyant l'autre à un passé supposé, à une proximité qui n'existe pas. Il y a des sourires dans le studio. Elle le souligne très bien en parlant d'elle et de sa famille, nationalité française depuis plus de 3 générations, et pourtant, on n'arrête pas de lui demander « T'as des origines mais c'est lesquelles, je peux les connaître ?» avec une espèce d'appétence pour ses origines extrêmement lointaines, du coup, comme on peut l'imaginer.
Oui, pardon, je te coupe, mais je crois même qu'elle revient sur le fait, la réaction des gens quand elle dit qu'elle s'appelle Tania de Montaigne.
Oui, c'est son vrai nom, hein, c'est pas un pseudo. Hein.
Et les gens, ils se disent, elle est noire et elle s'appelle de Montaigne, mais c'est pas normal.
Voilà, exactement. Il y a tout un tas de passages où vraiment qui sont très bien. Alors autre chose, elle ne nie pas non plus les rapports de classe, et j'ai trouvé ça très bien. Le capitalisme et les divisions qu'il crée. Alors bien entendu, le livre fait 93 pages, c'est pas une thèse là-dessus. Mais en posant la question du pourquoi est pris en compte la demande de certaines personnes, souvent plus par leur poids économique que leur réelle souffrance, elle démontre assez vite eh bien, à quel point c'est encore une fois un rapport à la position sociale plus qu'une réelle envie de détruire le racisme. Et j'ai trouvé ça très très brillant. Bon, je pourrais encore dire beaucoup sur ce livre, hein, parce que voilà, mais bon, comme il est court, je risque d'un petit peu trop vous en dire. Puis surtout, je ne voudrais pas dévoyer votre lecture par mes affirmations et ma vision en fait, du livre, donc je vous invite vraiment à le lire. Sachez qu'il est quand même très drôle, parce qu'elle écrit bien, Tania de Montaigne, et c'est assez amusant à lire. Il est très simple d'accès, et quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire qu'en fait, elle pourrait, hein, moi quand je vois son cursus, elle pourrait écrire comme plein de gens, vous savez, avec des mots très compliqués, des astérix, des renvois en bas de page et tout ça. Ah non, elle l'écrit très très simplement, pour qu'on puisse tous bien comprendre ce qu'elle dit, puis à la fin, elle mène une bibliographie complète pour nous renvoyer aux sources qu'elle a utilisées pour son livre, et c'est bien plus intéressant que d'avoir des astérix et des mots compliqués. Mais ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il nous pousse à nous interroger toutes et tous sur notre rapport aux autres, nos propres préjugés et parfois nos crispations malsaines. Et ça, elle l'écrit, ça peut paraître très bizarre, hein, la notion de crispation malsaine, et pourtant elle le définit très bien. Comment en fait, parfois, les gens qui se crispent, ce ne sont pas, comme on dirait, les premiers concernés, comme elle le dit avec des guillemets, elle aussi. Et puis que du coup, bah, ça met un poids sur ces fameux premiers concernés qui se sentent obligés de répondre à une question aussi débile que « Qu'est-ce que vous pensez du fait que Katy Perry a fait des tresses africaines ?» Hein ? Répondez, vous qui êtes noir.
Oui,
voilà. Donc vous voyez, c'est un petit peu le truc. Donc je vous recommande vraiment très chaudement la lecture de « L'assignation, les Noirs n'existent pas » de Tania de Montaigne, c'est aux éditions Grasset. Et puis je suis preneur de vos retours par mail, commentaire ou autre, donc n'hésitez pas. Voilà.
Eh bien moi, je l'ai lu aussi, moi, il y a vraiment des trucs que je trouve super intéressants, c'est justement, enfin, je pense que les exemples qu'elle donne, par exemple, autour de la réappropriation culturelle des États-Unis, enfin, là aussi, je trouve qu'on on se rend compte quand même de l'importation de certaines modes de réflexion ou concepts, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement pourris, c'est pas mon propos. Mais par contre, qu'effectivement, je pense qu'il faut les réinterroger aussi dans quelle société ils prennent place, ils sont nés. Et que c'est vraiment autour de ça. Et y a aussi, moi, ça me rappelait aussi son bouquin, ça me rappelait aussi un petit peu, alors dans un genre différent, hein, mais la fabrique du musulman. Ouais, là aussi, un musulman avec un M majuscule. Parce que,
de Nejib Sidi Moussa.
Et parce que vraiment, il y a vraiment de ça. C'est-à-dire, c'est la réassignation de gens à des choses qui. Enfin, ça veut dire quoi en
fait ? À des cultures fantasmées.
Ah, c'est ça, en fait. Il y a des gros ensembles, il y a des choses figées.
Oui.
À des choses figées.
Il n'y a rien de pire que quelque chose de
c'est
figé.
C'est exactement ça. Et par contre, aussi, ce que je voulais rajouter, c'est ce que Nejib nous rappelle dans son bouquin, c'est que tous ces modes de fonctionnement-là, tous ces enfermements que certaines veulent appliquer à tout le monde, c'est au bénéfice des entrepreneurs du communautarisme.
Et bien sûr.
Ils enrichissent une bourgeoisie communautaire. Alors, qu'elle soit communautaire ou qu'elle soit je ne sais pas quoi, une bourgeoisie reste une bourgeoisie. Ceux qui s'engraissent sur le dos de nous, quelles que soient nos couleurs, restent des gens qui s'engraissent. Et qu'il faut continuer cette notion de lutte de classe dans tout ça aussi. Parce que comme le rappelait dans La route de l'esclavage, c'est l'esclavage qui a donné naissance au racisme, c'est pas le racisme qui a donné naissance à l'esclavage.
Tout à fait.
Et tout ça, rajouté, quand on met tout ça un peu dans l'ordre, et ben d'un coup on se dit, ah bah ouais, en fait, il y a des choses qui sont différentes. Et je voulais juste terminer quand même sur cet exemple de Katy Perry. Vraiment, je vous invite à vous renseigner.
Elle a 27 coiffures dans son clip.
Hein. Oui, mais il y a aussi, je vous invite vraiment à vous renseigner, elle a présenté ses excuses.
Oui, c'était assez surréaliste.
Il y a quelque chose, pour moi, qui est assez surréaliste. Que je veux dire, elle ne moquait pas, elle ne.
Elle a juste fait une coiffure parmi 27 autres. Quoi.
Mais sauf qu'aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. Et que justement, c'est là aussi où on se rend compte de la construction sociale des États-Unis qui est très communautaire, pour ne pas dire communautariste, et ça a forcément des conséquences sur plein de choses.
Oui, puis c'est la genèse d'une nation. Enfin, je veux dire, et Tania de Montaigne le rappelle très bien dans son livre, c'est la genèse d'une nation qui n'a aboli, par exemple, la ségrégation qu'en 1964, oui. Pas 1800. Donc, en fait, il y a des constructions qui sont récentes. Et donc, du coup, même si c'est très intéressant, voilà, et comme tu dis, il faut recontextualiser, faire attention de ne pas importer des choses qui ne peuvent ne pas forcément exister ici. Oui. Et d'ailleurs, je voulais juste faire un parallèle, mais je reviens sur ce que tu disais avant par rapport à l'île Maurice. Nous, on avait reçu, je sais pas si vous vous souvenez, pour Weekend to Be Gay, c'était, j'ai perdu son
Nathalie.
Prénom, Nathalie, voilà, qui était dans l'émission 102 du 17 mai 2015, je l'ai noté. Et c'était exactement, moi je vous rappelle, c'était exactement la même construction, c'est-à-dire, c'est des gens qui disaient, mais nous aussi, on a le droit d'être libre à un moment donné. Et il y a des gens là-bas qui disaient, mais non, parce que ça, c'est de l'importation qui viennent des pays de l'Ouest, européen, et vous ne pouvez pas. Nous on n'est pas pareil machin et tout, mais en fait tout ça c'est de la connerie au final quand on regarde bien les choses. C'est pas parce qu'en fait ça doit être adapté peut-être à certains lieux, à certaines façons, à certaines coutumes, à certaines ce que vous voulez, que la liberté individuelle doit être niée. Sinon on a perdu d'avance. C'est-à-dire, si on commence à se dire la liberté individuelle elle dépend des coutumes et des cultures, non, les coutumes et les cultures ça évolue pour que la liberté individuelle existe, point. C'est dans ce sens-là que ça marche. Dans l'autre sens, en fait, ça s'appelle du conservatisme.
Ah bah oui, clairement, voilà. Tu fiches tout, quoi.
Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter.
Et chacun de nos petites cases. Oui. Mais les bergers seront là pour veiller sur nous, rassurez-vous.
Musique ?
Allez.
Maillot de bain sexy et tuba assorti. Dans sa combi Gucci, en toute saison à pied. Attention, la voici, elle arrive, fait du bruit. Laissez passer la conne qui est dans. Moi je veux être une conne avec ma pelle, mon seau. Sous le soleil qui assomme, hanter mon cerveau. Dans mon décor sitcom, laissez-moi, je suis conne. Une conne en vacances, une conne qui danse. Quelle conne, c'est ce qu'on dit quand on me voit. Quelle conne, ouais, c'est moi. Je veux être une conne, une vraie qui déconne. Et être trop crevée, à force de m'éclater. Dire tout ce que je pense, même si ça n'a pas de sens. Et qu'on me trouve trop puissante, tellement je suis innocente. Avoir une cour minée, qui me regarde danser. Rigoler, voir baiser, et encore picoler. trop mortel. Tellement je suis naturel. Mais j'ai tellement souffert. Sortez-moi de cet enfer. Moi je veux être une conne. Une vraie colle, une conne. Plus jamais réfléchir. J'ai si peur de mourir. Laissez-moi être avec tes copines. Comme moi et que je hais. Parce qu'on se ressemblait. Dans mon joli pays. Rien de grave, tout s'oublie. Cri d'amour ou de haine.
Et c'était Adrienne Poli dans la causerie avec la conne, bien entendu la chanson.
Je crois.
J'aime beaucoup Adrienne Poli, alors voilà, c'était l'occasion d'en passer. Allez voir son univers, elle est vachement sympa. C'est toujours un peu décalé, mais c'est toujours assez politique, enfin sous-jacent. Et dans son clip, là, elle est magnifiquement grimée en Donald Trump, donc ça vaut le coup d'aller voir le clip.
Voilà. Ok.
Passe aux brèves.
C'est ça. Eh bien alors, les brèves pour toute la semaine.
Ah, pour toute la semaine, il y a donc une permanence d'aide aux travailleurs sans papier. C'est tous les jours de 10h à midi à l'Union départementale CGT 215 cours Lafayette dans le 6e. Et si vous arrivez et vous ne pouvez pas y aller entre 10h et midi, présentez-vous quand même, on vous redirigera.
Et les deux autres infos, c'est comme tous les lundis, hein, donc c'est les cours de langue à destination des migrants et migrantes qui ont lieu tous les lundis de 18h à 20h au local de la Plume Noire, 8 rue Diderot dans le 1er arrondissement. Et la deuxième info, c'est toujours les lundis, c'est les permanences de soutien aux sans-papiers et à leurs proches, 18h30, 20h à la Lutine, c'est au 91 rue Montesquieu, c'est dans le 7e arrondissement.
Et sinon, c'est aussi la fin de la quinzaine des fiertés sur Lyon, et donc ça va jusqu'au 23 juin, et vous vous doutez bien qu'on va pas tout vous lire parce que franchement c'est trop long. Alors vous irez sur fierté.net et vous trouvez tout le programme de la quinzaine des fiertés. Voilà.
Et puis on rappelle juste, pas d'émission astro la semaine prochaine avec Georges,
et pas d'émission astro du tout d'ailleurs.
Ah bon?
Ah bah oui, pas avant la rentrée.
Non.
Bah si.
Ah bah, je savais pas.
Ah si si, mais moi je le sais.
Voilà. Bah, on le savait. Bah, je ne le savais
et
pas.
Oui,
je...
Moi non plus.
Eh bah oui, parce que Georges m'a envoyé un message rien qu'à moi pour me dire.
Non, mais vous avez bien des relations.
T'es bien vu toi.
Ah ouais, relations particulières.
Partenaire particulier, cherche partenaire particulier.
Et donc pas de.
Non. Et donc il reviendra quand septembre cette feignasse.
Eh ben ami auditeur, ami auditrice, fais entendre ton désaccord.
Oui. Envoie un message.
Comme je le ferai, histoire de faire flipper Georges.
Non, simplement, juste il s'excuse, il n'a pas le temps là de le faire. Après, il va être un peu beaucoup pris sur juillet-août et donc il reviendra en septembre pour faire. Du coup, il saute une émission, voilà, tout simplement.
Ok, donc on sautera une saison, hein, on ne passera pas à l'été, on passera directement à l'automne.
Et comme Georges ne l'a pas décrété, l'été n'existe pas cette année.
Mais c'est exactement ce que je viens de dire, c'est horrible. Passer du printemps à l'automne. Et l'autre info aussi, quand même, qu'on va saluer, c'est le retour de Guillaume et de son émission Musique, etc., qui a lieu tous les dimanches de 11h à midi sur l'antenne de Radio Canu, qui après une petite pause et tout ça revient en forme et avec des invités toutes les semaines, des groupes locaux. Donc vraiment voilà, écoutez, et puis si vous êtes des artistes locaux, n'hésitez pas à le contacter. C'est une très bonne émission et qui laisse toute la place aux artistes et pas à son ego. Autre info vite fait, mais ça c'est un truc vite fait. Hein. Amis auditeurs, auditrices, la causerie a des superbes moyens de propagande et de promotion de son émission. Et nous avons des autocollants. Oui. Alors si genre t'en as envie, t'en veux, eh ben n'hésite pas, envoie-nous un mail à lacausericanu@gmail.com et on trouvera un moyen de t'en faire parvenir.
Envoie-nous surtout ton adresse.
Non mais qui nous contacte d'abord voilà. Et ensuite on verra comment faire.
Non mais si tu n'es pas de Lyon, ton adresse. Et si tu es de Lyon, viens nous voir. Mais viens nous voir les dimanches.
Oui mais préviens parce qu'on n'a pas des autocollants tout le temps. Enfin, on n'est pas des dealers quoi, je veux dire. Pas d'autocollants. Enfin, je veux dire, on n'est pas des dealers d'autocollants, quoi. Donc, on n'en a pas plein sur nous, mais contactez-nous si vous en avez envie. Personne ne nous contactera, de toute façon, personne ne s'écoute. Bon, allez, je crois qu'il est l'heure, il est plus que l'heure. La semaine arrive à grands pas. On vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne nuit, surtout vu l'heure.
Une bonne fin de week-end, une heure de week-end encore.
Et bon courage pour la semaine à venir. Et on se quitte avec Diana Ross et le titre I'm coming out.
Bah, en cette semaine des fiertés, cette période de fierté, c'est quand même.
Oui, et puis ça vaut pour tout le monde. Oui. Qui que vous soyez, soyez.
Oh, c'est beau.
S'il te plaît.
Des bisous.
Au revoir. Au revoir.